On va parler de la santé financière des clubs belges de football professionnel. Vous savez, le championnat de Belgique reprend demain soir. Et donc, la santé financière des clubs belges pose des questions. Sur les 5 dernières saisons, seuls 3 des 28 clubs professionnels ont réalisé des bénéfices. Les 25 autres accumulent les pertes. Et pour mieux comprendre cela, eh bien Samuel, vous vous êtes entretenu avec Alexandre Demeter, consultant et fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize.
Bonjour Alexandre, merci de répondre à mes questions ce matin pour Radio Judaïka.
Bonjour Sam, c'est avec grand plaisir évidemment que je réponds à toutes tes questions ce matin.
Alors, on va commencer par une question basique qui va permettre peut-être à nos éditeurs de mieux appréhender le sujet. De manière assez synthétique et simple, quels sont les postes de dépenses et quelles sont les sources de revenus qu'ont les clubs de football ?
Côté dépenses, évidemment… Ça va de soi, c'est le salaire des joueurs qui est la majeure partie de ce tableau. Après, il faut pas oublier, il y a aussi une infrastructure certainement vieillissante en Belgique qui reste à entretenir et il y a une organisation de matchs. Donc il y a certaines villes ou communes qui doivent déployer un dispositif de sécurité et de police assez conséquent, ce qui engendre des coûts. Certains clubs pour leurs matchs européens ont dû se délocaliser également et à chaque fois on parle d'une somme à 6 chiffres pour délocaliser ce match. Donc ce sont des dépenses assez pharaoniques, on peut l'imaginer, mais évidemment la majeure partie part dans le salaire des joueurs. Ce qui est contrôlable pour le club, tu vas me dire. Mais après, de l'autre côté, il y a aussi toutes les recettes. Les recettes, on est passé avec les années de ticketing d'entrée, de mécénat, sponsoring qui est devenu un sponsoring plus large entre-temps, au droit TV. Donc il y a la société DAZN avec Eleven pour l'instant qui a les droits en Belgique. Ils peuvent octroyer des belles sommes au club belge, on parle de millions aussi. Et finalement, les droits TV en 2023 sont une des ressources principales de recettes pour les clubs, la plupart des clubs. Évidemment, on a certains clubs qui jouent la Ligue des Champions, c'était majoritairement Bruges les dernières années, et d'autres clubs qui jouent en Coupe d'Europe. Après, pour nos auditeurs, il y a la Champions League qui est très lucrative, qui a rapporté chaque année en moyenne 40 millions à Bruges, tout en étant plus précis. Une fois qu'ils étaient éliminés au premier tour, ils touchaient entre 30 et 35 millions. L'année passée, Bruges a réussi sportivement à passer l'hiver, ce qui leur a rapporté près de 50 millions.
À la lecture des graphiques qui se trouvent dans le soir, on peut s'étonner de la différence de situation entre certains clubs qu'on rangerait naturellement dans la même catégorie, celle des grands clubs. Vous avez parlé du club de Bruges, qui se trouve en tête du classement établi par le soir. C'est le club qui génère le plus de profits sur les 5 dernières années. Alors que d'autres clubs, comme le Standard, l'Antwerp, et à fortiori encore Anderlecht, sont les derniers de la classe. Anderlecht a cumulé des déficits, des pertes colossales de plus de 90 millions sur les 5 dernières années. Qu'est-ce qui explique la différence entre ces clubs qui pourtant, de prime abord, semblent appartenir à la même catégorie?
Disons qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le club de Bruges a joué 5 fois la Ligue des Champions lors des 6-7 dernières saisons, ce qui à chaque fois, comme je le disais là tout de suite, rapporte près de 30-35 millions au club. Ça permet au club d'investir, ça permet au club de se structurer aussi en coulisses, parce qu'il faut pas oublier, le club de Bruges, c'est aussi le plus grand employeur dans le foot en Belgique. Et on parle du staff administratif et pas du staff sportif à ce moment-là. Mais Bruges a su se collecter un pactole également chaque année, a pu mettre ses joueurs au devant de la scène, a pu les revendre plus cher peut-être que s'ils n'étaient pas en Coupe d'Europe ou en Ligue des Champions, ce qui permet au club d'avoir des ailes. Ce n'était pas le cas à Anderlecht. Il y a eu, pendant des années, Anderlecht a eu de nombreux succès, ce qui retent dans la tête de plusieurs Belges et amateurs de foot des dernières années. Mais à chaque fois, Anderlecht avait ses revenus. Il y avait une partie qui allait à la famille Van den Stock et pour le reste, le sportif tournait avec sa stratégie. Avec le temps, les joueurs sont devenus de plus en plus chers. Le club a engendré de moins en moins de revenus et finalement, pour être break-even au moment de la vente, juste après la vente, il fallait faire des investissements que Mark Cook avait fait, ce qui se traduit encore dans ces chiffres qui sont rouge foncé. On parle de plus de 92 millions dans le rouge. Tout ça, il faut encore une fois mettre en perspective. La plupart des clubs ont un actionnariat et il y a des rehaussements de capitaux ou de capital chaque année. Donc, ce qui constitue une dette également.
Vous parliez des transferts, c'est une source évidemment, mais de revenus, mais c'est bien sûr une source sur laquelle on peut pas vraiment compter, en tout cas de manière très rationnelle, puisque autant les droits TV, on sait combien à combien ils vont s'élever, autant un joueur, on n'est jamais certain qu'on va réussir à attirer une très grosse plus-value. J'imagine que le talent que peuvent avoir les recruteurs des clubs participe aussi à cette bonne santé financière.
Tout à fait, il y a ce microcosme de recrutement et de placer des joueurs par-ci par-là. Après, il faut voir plus loin aussi. Les droits TV en Belgique, par exemple, si on compare à l'Allemagne, oui, on a une certaine assurance parce que c'est assez homogène, comme ça, on va dire. En Allemagne, le premier aussi ne reçoit que 49% que le dernier du classement. Si on compare ces deux pays à l'Angleterre, par exemple, il faut savoir que le dernier de Première Ligue a encore un parachute doré de plusieurs centaines de millions quand il descend d'une division. On ne parle même pas de ce que remporte Manchester City ou Manchester United en haut du classement. Donc les sommes sont tout à fait hétérogènes comparées à la Belgique. Par contre, en Belgique, oui, il y a cette vente de joueurs qui peut constituer une plus-value, mais comme les résultats de l'équipe, tous deux sont tributaires l'un de l'autre, en fait. Donc, on peut, comme Bruges avait acheté Yaremchuk, ils ont payé 17 millions, c'est le transfert record en Belgique. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une franche réussite. Donc là, pour l'instant, Bruges a perdu, pour ainsi dire, 17 millions.
Et à l'inverse, voilà, l'Union, par exemple, a vendu Boniface, qu'ils ont fait venir, je crois, pour 2 millions et qui vendrait pour une vingtaine de millions. Là, c'est vrai que ça fait une. Dans les comptes du club, ça va compter, ça va peser.
Ça pèse positivement, mais il y a une grosse dette qui a été créée à l'Union aussi depuis 2018 pour ramener le club en division 1A. Donc tout est en perspective dans ce classement, comme l'Antwerp par exemple, qui a été champion, qui malheureusement pour eux ne jouera pas la Ligue des Champions. Donc comme Bruges ne peut pas s'assurer de ces 35 millions de filles de participation, par contre ils sont dans les tours préliminaires, mais rien ne garantit de nouveau cette participation. Donc l'Antwerp pourrait avoir un manque à gagner comparé au club de Bruges les dernières années. Et eux, qui sont avant-derniers du classement, ont eu aussi, il y a ce capital qui est rehaussé chaque année pour tenter de couvrir les dettes, mais surtout d'investir dans le stade, de terminer ce stade, qui à ce moment-là sera un des plus modernes de Belgique et pourra générer des revenus lui-même.
Voilà, c'est justement, vous faites une parfaite transition. C'était ma question d'après. Est-ce que il y a une spécificité des clubs belges par rapport aux autres clubs européens, pas nécessairement... On a parlé des droits TV qui sont d'un montant différent, mais je pensais justement aux infrastructures et on a la sensation, on a un feuilleton à rebondissement, un feuilleton au long cours, par exemple, proche de chez nous, le stade de l'Union qui a du mal à se monter et j'ai l'impression que c'est récurrent en Belgique. Est-ce que c'est pas lié un petit peu au millefeuille administratif belge qui fait qu'on a du mal à faire sortir les stades de terre, les stades qui génèrent du revenu?
Alors effectivement, pour parler de l'Union, le stade est bloqué d'un point de vue politique. Il y a tout un lobby qui doit se faire en coulisses et contrairement par exemple à la France, qui facilite déjà un tout petit peu plus la construction de stades, même si on a vu à Lille que ça a mis du temps, mais une fois que le stade y est, le résultat peut être vu. En Belgique, il y a cette difficulté. Il y a pour des 50 dernières années, je n'ai connu que deux stades qui ont été construits sur un nouveau site. C'est le stade de Bruges dans les années 70, le Jan Breydel, qui est complètement vétuste aujourd'hui. Et c'est le stade de Gand qui, lui, a été construit. Et il y a un livre très intéressant qui est sorti à ce sujet. Il y a eu quelques artifices politiques, on va dire, pour la construction de ce stade. Tous les autres stades, il n'y en a pas sur site propre pour l'instant. Ça a à chaque fois été des rénovations de stades anciens, comme à l'Antwerp, comme à Genk, comme au Standard, comme à Saint-Tron, comme partout en fait.
Est-ce qu'il n'y a pas trop, économiquement parlant, hein, est-ce qu'il n'y a pas trop de clubs professionnels en Belgique par rapport au bassin de population? On a un peu plus de 11 millions et demi d'habitants, on a 28 clubs professionnels et forcément, économiquement parlant, est-ce qu'il n'y a pas le gâteau en fait se divise en trop de parts et donc elles sont un petit peu trop petites chacune?
Pour moi, il y a trop de clubs en Belgique. Et je pense que les économistes du sport sont également d'accord avec cette théorie. Mais malheureusement, on a tout un lobby de nouveau qui doit se faire. Et à la Fédération Belge de Football, il y a l'ensemble des clubs professionnels, la Pro League, qui est représenté. Mais il y a les clubs amateurs qui sont représentés aussi. Et là, de cette volonté d'amateurs, c'est à chaque fois d'avoir de plus en plus de clubs qui peuvent accéder au système professionnel. Si on compare, par exemple, à la Hollande, il y a le top 2 des championnats, c'est-à-dire la division 1 et la division 2 qui ont à chaque fois un partenaire naming, mais peu importe, c'est franchisé. Donc les clubs pro ne savent pas descendre de division 2 et uniquement un club franchisé, entre guillemets, peut accéder au système professionnel. Il y a des clubs comme Katwijk qui refusent justement ce statut professionnel, qui préfèrent rester en amateur. En Belgique, c'est encore semi-ouvert. Mais depuis des années, quand on plaidait pour que les clubs, pour qu'il y ait moins de clubs, au contraire, on en a qui se rajoutent. Et là, par exemple, on a Framborin, on a Patroumas Mechelen, des clubs qui se rajoutent. Et je me pose la question, même si c'est à chaque fois dans un autre coin du pays, dans des endroits où il n'y a pas de club pro pour l'instant, quelle sera leur aventure? Après, on a en Flandre, par exemple, on a Bruges, on a le Cercle de Bruges, on a Ostende, on a Courtrai, on a Roulers qui a disparu de l'échiquier, mais on a encore Zultenwaregem qui n'est pas loin non plus. Et c'est une région très prospère, comme la Bretagne où est-ce qu'il y a beaucoup de clubs aussi en France, ou comme la Bavière en Allemagne, il y a beaucoup de clubs aussi. Mais en Belgique, d'un point de vue structurel, on a trop de clubs et on ne sait pas, le sponsoring se décuple aussi. Si on prend Napoleon Games, pour ne pas les citer, ils ont plusieurs clubs en division 1 dont ils sont sponsors. Est-ce que pour eux c'est plus intéressant d'avoir plus de visibilité pour les clubs en question, ou en tout cas le leader de sa région, ils touchent moins d'argent?
Ça va être ma dernière question. On l'a vu, les coûts ont tendance à augmenter, et notamment vous l'avez dit, les salaires. On sait qu'il y a actuellement avec ce qui se passe en Arabie Saoudite une inflation. Alors ça touchera pas peut-être directement la Belgique, mais ça a tendance sans doute à faire monter les salaires un petit peu partout. Donc on peut pas tellement compter sur une réduction des dépenses, mais donc pour équilibrer, il faudrait augmenter les recettes. Et j'aimerais savoir, vous qui touchez beaucoup au marketing, quels sont les moyens justement aujourd'hui d'augmenter les recettes? Est-ce qu'il y a des innovations marketing ou des moyens modernes qui permettraient au club de générer plus de revenus?
Disons qu'il y a le naming du stade, et là on en revient au sujet de là tout de suite. Un nouveau stade peut s'offrir un naming, comme c'est le cas à Genk par exemple, parce que c'est très accueillant, c'est suffisamment grand. D'autres stades sont encore vétustes et ont plus de mal déjà à vendre cette image à des partenaires. Ceci dit, en 2023, on est beaucoup dans l'expérience. Et si on prend l'exemple du Paris Saint-Germain qui organise un run dans son stade, chaque participant paye près de 40 euros. Avec plus de 20 000 participants, on fait quand même le calcul. Qu'est-ce que ça peut générer comme revenu au club aussi? Donc je pense que les clubs doivent être encore plus dynamiques, encore plus créatifs et créer ce genre d'événements. Malgré l'inflation, malgré un coût de la vie qui a encore augmenté, malgré les maillots, par exemple, qui coûtent également plus cher. Il y a une étude Sportimize qui le démontre. En moyenne, on paye quand même entre 5 et 7 euros de plus par maillot acheté comparé à l'année passée. Donc, les fans doivent également choisir où est-ce qu'ils investissent leur argent et comment ils l'investissent.
Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Demeter. Je rappelle, vous êtes le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Merci de nous avoir éclairé sur ce dossier. Et on a hâte, et j'imagine que vous aussi, que la première division redémarre ce week-end. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt.
Tout à fait. Merci, Sam. À bientôt.